J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Bienvenue sur le Bouquet Grandvillers. Partons maintenant à la recherche de nos ancêtres, une émission animée par votre serviteur Robert Goulet du groupe Généalogie Grandvillers. Plus de 60% des Français font des recherches sur leurs ancêtres, besoin tout naturel de savoir d'où on vient. Les jeunes s'y mettent, c'est lié à Internet et la généalogie n'est plus la marotte des retraités. Partir sur la trace de ses ancêtres, rechercher des informations sur son passé, c'est également travailler sur soi, sur sa place dans le monde. Le fait de s'intéresser à sa propre histoire est aussi un bon moyen de se pencher sur l'histoire du pays.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie.
Le regard pétillant, le sourire aux lèvres, un grand âge ou un âge certain. Il fut président du cercle généalogique du Calvados une dizaine d'années. Jacques Val, bonjour. Vous allez peut-être pouvoir nous parler de votre propre expérience en matière de généalogie. Comment avez-vous commencé votre généalogie, s'il vous plaît ?
Oh, c'est un peu comme beaucoup de personnes. J'ai découvert, au décès de mon père, des papiers de sa famille, dans lesquels j'ai pensé avoir découvert un secret bien gardé. C'était en 1982. J'ai donc cherché l'origine de cette famille. Et à l'époque, nous faisions tout ça par des notes sur papier. L'Internet n'existait pas, ou démarrait à l'époque, n'était pas aussi important que maintenant. Et donc, il a fallu, à l'aide de demandes de renseignements, rechercher d'où était issue cette famille de l'Est de la France. Ma grand-mère était une personne qui ne pouvait pas supporter les contradictions et elle était à la fois très bavarde. En ce sens que j'ai dû comparer ce qu'elle me racontait, des papiers que j'ai pu recevoir des différentes mairies, et il s'est avéré que il fallait se méfier de ce qu'on peut appeler la tradition verbale, qui est bien souvent inexacte et amène à des erreurs.
Bon, Maître Jacques, quel type de papier de famille vous avez été chercher, s'il vous plaît ?
Ce que j'ai trouvé exactement, c'est un petit porte-monnaie en argent, en maille d'argent, avec une fermeture là, dans lequel j'ai découvert les dates de décès de ses parents, et en dernier, un papier qui s'appelait l'élixir de vie. C'est un papier écrit par je ne savais pas qui s'était avéré un oncle, qui était l'élixir de vie d'un docteur suédois, où il définissait les différentes plantes à récolter pour obtenir son élixir de vie, et en plus, il a consigné toutes les guérisons qu'il a pu constater dans ce petit village de l'Est de la France. Et je me suis dit, ça y est, j'ai découvert un secret, ma fortune est faite. En fait, c'est un élixir que l'on connaît maintenant, parce que avec la publicité, mais je me suis permis d'aller voir un pharmacien qui m'a dit, oh oui, dis donc, c'est très intéressant, mais Je ne peux pas vous faire cette mélange de plantes parce qu'il y en a un qui contient trop de plantes, je ne dirais pas vénéneuses, mais qui...
Des plantes qui vous empêcheraient de dormir la nuit
ou... Non, qui pouvaient amener à un décès.
Ah oui.
Alors, bon, je ne peux pas... Donc, j'ai quand même essayé, mais j'ai eu 2 ou 3 résultats. Mais le but de tout ça, c'est que j'ai essayé de savoir qui était cet oncle.
Alors, qu'est-ce que vous aviez... où auriez-vous été chercher ces documents pour connaître?
Eh bien, à l'époque, Internet n'existait pas. Il fallait se rapprocher des mairies, leur écrire. Mmh. Alors là, on était au bon vouloir des secrétaires de mairie qui étaient surchargés de travail et qui ne pouvaient pas faire des recherches. Donc il y avait une méthode ou avoir des correspondants sur place ou aller sur place faire des enquêtes.
D'accord. Autrement, avez-vous usé des livrets de famille de vos ancêtres?
En partie. J'ai trouvé des livrets de famille, des oncles, j'ai fait des rapprochements. Et à l'époque, la généalogie n'était pas très, très, comment dire, très en avance. Et il a fallu, par des recoupements, et surtout, je me suis déplacé pour trouver auprès des mairies, où là, la plupart du temps, on était très bien reçus, qui mettaient à notre disposition tous les registres paroissiaux, les registres de la Révolution, à notre disposition.
Y a-t-il des limites dans vos recherches?
Ah bien, la limite, elle est dans l'existence de documents qui n'ont pas été détruits. La guerre est passée par là. Certains, on parle beaucoup par exemple de Saint-Lô. Saint-Lô, au moment du débarquement, avait pris la précaution d'envoyer ces documents répartir dans des communes avoisinantes. Et ils ont bien fait puisque les archives ont été détruites. Par contre, il y a des endroits où c'est le contraire qui s'est produit. Les archives ont été déplacées, mais ont subi les bombardements.
Oui, il semblerait que pour certaines communes, la généalogie a été reconstituée. Disons que à Saint-Lô...
Il y en a, oui. Principalement, dans mon cas, j'ai eu à faire des recherches dans la Somme, par exemple, où là, tout a été détruit et ça a été reconstitué d'une façon très complète.
D'accord. Autrement, vous avez sûrement dû interroger tous les membres encore vivants de votre famille pour pouvoir constituer ou faire des recherches dans ce domaine.
Bien, c'est justement là qu'il s'est... Il faut rechercher, il faut faire parler les anciens. J'en suis un maintenant. C'est pourquoi je peux parler, si vous voulez, de ce problème, en ce sens que, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de communication entre les enfants et les parents. Les parents ne racontaient pas les histoires, les histoires de famille. Donc, il faut faire la part des choses, ne pas se contenter d'un seul enseignement quand on doute d'une date ou autre. Il faut essayer de trouver le chemin qui mènera à la réalité. C'est de sorte que, dans votre question, jusqu'où êtes-vous allé? Eh bien, ça dépendait. J'ai dans une de mes branches maternelles, je suis aux environs d'Henri IV.
Intéressant, ça.
Et dans l'Est de la France, où... Il y a eu la guerre de 14-18, il y a eu la guerre de 39-45, mais où, dans certaines régions, tout est intact. C'est là que je suis le plus loin passé. Autrement, je dirais qu'on arrive facilement aux environs de 1650-1660, dans les, d'une façon générale, très très générale.
Sachant que l'état civil, tel qu'on la connaît, n'a commencé qu'avec l'édit de Villers-Cotterêts, en 1539, François Ier interrogeant les ecclésiastiques pour enregistrer notamment les baptêmes à cette époque.
Exactement.
Donc 1539, un état civil complet plutôt vers 1570, oui, où on enregistre les mariages et les sépultures. Quand on arrive déjà à 1650, on est déjà dans les bonnes normes.
Oui, surtout que vous mettez là l'accent sur qui enregistrait les naissances et les mariages, c'était les curés. L'état civil n'existait pas, donc les curés n'avaient pas une formation très, très, très poussée du français. On rencontrait surtout des curés qui parlaient bien souvent le patois local et qui traduisaient ça en latin, entre parenthèses, de cuisine. Et on arrive à une lecture parfois souvent difficile. On change suivant les curés qui sont là très longtemps, où on voit l'écriture changer avec l'âge, ou qui disparaissaient. On trouvait un curé d'une région voisine qui venait, et c'est une autre chose.
L'écriture était beaucoup plus phonétique à cette époque-là, et on l'écrivait selon comment on l'entendait.
Et oui, c'est exact. Et surtout, la conservation des documents joue beaucoup dans la lecture de ces documents.
Revenons à une période beaucoup plus récente, c'est-à-dire on commence notre généalogie. Il y a une période, il semble-t-il, que l'on ne peut pas consulter à titre extérieur, c'est-à-dire la période des 75 ans, qui est de la recherche directe en fonction des documents que vous possédez. Après, comment ça se passe ?
Après 75 ans.
Après les 75 ans, il semblerait qu'il y ait une certaine facilité à accéder aux archives municipales pour l'état civil, ou dans lesquelles il y a des tables qui vous permettent d'accéder très facilement à la connaissance d'une personne ou d'un personnage ou d'un mariage, d'une naissance ou d'un décès.
Très, très facilement.
Votre expérience.
Mon expérience, non, très facilement, non. Parce qu'il y a l'application de cette loi qui a raccourci les délais de consultation des documents, qui étaient 100 ans auparavant, ramenés à 75 ans. Or, 75 ans, il y a encore beaucoup de personnes vivantes.
Tout à fait.
Donc, c'est la difficulté. Alors, certaines mairies sont plus souples que d'autres. Il faut agir avec diplomatie, tout simplement.
D'accord. Autrement, je ne voulais pas parler d'une expérience que vous avez du mal peut-être à maîtriser, c'est Internet.
C'est encore pour moi. Enfin, j'ai la chance d'avoir une fille qui me conseille, mais c'est là la grosse difficulté. Il faut dire que on trouve avec Internet des logiciels aussi chez des spécialistes qui facilitent l'enregistrement. Or, il y a la manipulation. Ça, c'est... il faut se former un petit peu. Il faut essayer de trouver...
Personnes compétentes pour venir vous aider.
Exactement, mais il y en a qui sont... Au sein de cette réunion que vous avez tous les vendredis après-midi, il y en a un ou deux. Je suis stupéfait, on leur passe d'une chose, ils vous démarrent, ils vont trop vite. Voilà, pour moi, c'est... Donc... apprendre en même temps à se servir d'Internet. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un ordinateur ou de servir, vous pouvez toujours faire ça avec l'aide d'organismes.
On a parlé de livret de famille dans un premier temps, qui est les documents qu'on a souvent à portée de la main, soit par le sien, soit celui de ses parents, soit celui, voire même de ses grands-parents. Y a-t-il d'autres documents qui sont essentiels ?
Essentiels, je pense que Oui, il y a déjà, au sein des archives départementales, des grosses possibilités de trouver trace de toute l'évolution d'une famille. C'est très important. Encore faut-il y aller. À vous de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous donner un coup de main ou écrire, etc. Mais l'ensemble des renseignements qu'on peut recueillir, les livrets de famille et tout ça, c'est ça uniquement auprès des familles qui ont conservé ou pas. Donc il n'y a pas d'autre solution.
N'est-ce pas non plus la trace lisible et vraie d'une filiation qui est transcrite? Ou est-ce qu'on peut avoir des surprises malgré tout?
Ah, des surprises, moi j'en ai eu. Parce que je parlais tout à l'heure de cette transmission orale qui a été plus ou moins déformée avec les générations. Et vous tombez quelquefois sur des cas où vous retrouvez une trace qui vous démontre que ça a été camouflé, mais enjolivé pour ne pas que la famille ait une, disons, de la mauvaise réputation, tout simplement. Dans mon cas, je sais que certains documents qui contredisent toute l'histoire d'une famille, et que j'ai posé la question à plusieurs de mes petits cousins en leur disant: est-ce que je peux publier ce que j'ai récolté? Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non, parce que justement avec cette règle des 75 ans entre autres, et les recherches qu'on peut faire,
vous avez cherché surtout à les protéger, en quelque sorte.
À les protéger non pas, mais je ne me sens pas l'autorisation de transmettre quelque chose qui peut amener des discussions, des dissensions.
Autrement, pour les hommes, il y a le livret militaire. Est-ce que c'est une source importante par rapport à nos propres recherches?
Et alors, très importante, il faut dire qu'avec le centenaire de la guerre 14-18 qui a eu lieu ces dernières années, les archives ont numérisé et publié les numéros matricules des soldats, de tous les soldats. De sorte que si vous avez un ancêtre qui a été soldat, vous cherchez dans les matricules des soldats et vous avez sa fiche complète qui comporte son état civil, son état physique, les campagnes qu'il a pu faire ou s'il a été réformé. Je dois dire que personnellement, j'ai trouvé de chaque côté de ma famille des grands-grands-oncles qui ont été dispensés de service militaire et réformés, un pour faiblesse et l'autre pour, je ne me rappelle plus le terme médical, mais disons, il avait un commencement de cancer de la gorge. Ils ont été réformés tous les deux. Mais alors, on trouve sur ces documents la taille, la couleur des cheveux, des yeux, etc. Tout le physique de...
Alors, il semblerait également que figure sur ce type de fiche la vie de la personne jusqu'à son âge de 45 ans, âge à laquelle, effectivement, il est réformé, ou il sort des services militaires, et sur lequel on peut trouver des actes civils...
Alors, c'est pas une règle générale.
Mais bon, on peut trouver parfois des surprises, ou avoir des surprises par rapport
mais c'est un champ de renseignement qui est valable. Suivant où ça a été enregistré, je dirais. D'ailleurs, pour trouver ces actes de militaires, on peut l'avoir sur Internet, maintenant très très facilement, ou sur le... Il y a un service à Caen, des anciens combattants,
rue de Mozan à Caen.
Où on peut avoir des renseignements.
Autre chose qui nous paraît très importante, c'est les photographies de famille qui peuvent vous faire parler ou vous dire tel cousin, ceci, cela, ou était présent ou pas.
Oui, L'avantage qu'il y a avec les anciens par rapport à maintenant, c'est que maintenant les photos, on met ça sur ordinateur, on ne fait plus de tirage papier. Alors que dans le temps, on se faisait tirer le portrait. Et ce sont des photos de qualité qui sont très bien transmises, mieux que les photos qu'on peut avoir qui ne se conservent pas, enfin,
oui.
pas comme ces anciens documents. Et là, vous, quand vous avez la chance de trouver ces photos, eh bien, vous pouvez trouver des ressemblances et se faire une idée de ce qu'était la personnalité.
Donc, si je fais un petit peu la synthèse de vos recherches, vous nous conseillez, dans un premier temps, de faire des recherches d'après les documents que vous possédez, utiliser un format papier dans un premier temps pour transcrire ou inscrire toutes les données que vous avez pu récolter, plutôt un cahier plutôt que des feuilles volantes qui peuvent se disperser, noter les sources, les dates de découverte de l'information, faire parler éventuellement les personnes que vous interrogez.
Absolument.
Leur demander ce qu'ils en savent, comment ils connaissent l'information.
Mm-hmm.
Quoi d'autre avez-vous à nous communiquer par rapport à ça?
Ah bien, je crois qu'il y a deux qualités qu'on doit acquérir si on ne les a pas. C'est l'ordre. L'ordre, parce que dans les papiers, que ce soit dans les papiers ou dans les manipulations de sur ordinateur, l'ordre et de la méthode.
Donc de la rigueur, avant tout.
Peut-être pas avant tout, mais certainement.
Bon, ben, je vous remercie, Maître Jacques, de votre entretien. Une autre personne est ici présente, Hélène Michel, qui va nous parler d'un autre sujet, la psychogénéalogie. Souriante, à l'écoute des autres, pratiquant la généalogie depuis plus d'un quart de siècle. Bonjour Hélène, nous allons pouvoir discuter avec toi de comment es-tu arrivée à faire de la psychogénéalogie.
Bonjour. J'avais remarqué que dans la vie de mes ancêtres, il y avait des événements répétitifs, ce qui m'a amenée à m'intéresser à la psychogénéalogie. Comprendre et aider les personnes et chercher le pourquoi de ce problème. Prenons l'exemple d'une personne qui, lors d'un mariage, s'aperçoit que sa mère et sa grand-mère n'ont pas eu à choisir leur futur mari. Ces événements sont-ils la répétition d'un système familial ou l'objet d'une autre explication?
Bon, Hélène, comment pensez-vous effectivement régler ce type de problème?
Par l'écoute ou la relation d'aide, la psychogénéalogie reste un allié très précieux.
Merci Hélène de tous ces éléments que vous venez de nous fournir. On se rend compte très rapidement qu'il va nous falloir beaucoup de temps pour mener à bien notre généalogie. Combien de temps faudra-t-il pour réaliser réellement cette généalogie, Jacques?
Le temps est lié aux renseignements que l'on obtient. C'est effectivement de longue haleine. Parce que tous ces éléments, on les recherche dans les départements, dans les pays, à l'étranger éventuellement. Et surtout, il est difficile de suivre tous ces ancêtres qui émigrent, comme pour certaines professions. On a cité le cas des sabotiers, on a cité le cas des bûcherons, on a cité le cas des marins. Et donc, ça demande plus d'investigation, et quand il faut remonter sur 10 générations, donc le recueillement de tous ces renseignements demande des années. On peut dire que combien de temps? Il n'y a pas de temps pour faire la généalogie.
Et vous, Madame Hélène, qu'en pensez-vous de durée de généalogie? Ça, vous, un quart de siècle, mais est-ce que vous avez terminé? Ou est-ce que de nouveaux éléments ou d'autres recherches...
Il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est vrai que ça peut demander...
Une vie.
Plusieurs années.
Bon.
Sûrement.
Bon, bah écoutez, passion quand tu nous tiens, il n'y a pas de durée dans le temps et ça peut durer aussi bien 2 ans comme ça peut durer une éternité. Je vous remercie beaucoup. Nous présentons comme étant des généalogistes en herbe exerçant au niveau de l'Agora depuis au moins 6 années. Vous y rencontrerez tous les vendredis après-midi pendant les périodes scolaires un groupe de généalogistes confirmés qui vous aideront à mener à bien à débuter votre généalogie et organiser votre travail et travailler également sur Internet. Ces ateliers sont ouverts à tous et sont gratuits. Je vous souhaite, je vous remercie d'avance. Merci.
Je me souviens plus très bien lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier. Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis.